Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Marie Cazadebet.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, de passer cette heure en votre compagnie jusqu'à 9h, temps universel. C'est à vous de prendre la parole sur RFI dans une demi-heure pour participer à notre débat. Aujourd'hui, on parle de la hausse de l'obésité en Afrique. Ce n'est plus l'apanage des pays occidentaux et riches, même si évidemment les proportions sont encore en deçà sur le continent. Elle varie aussi en fonction des régions. Alors on veut savoir ce que vous constatez dans votre pays et comment vous expliquez cette tendance. Je vous rappelle le numéro de téléphone, c'est le 33 9 693 693 70. Avant cela, comme chaque jour, vos questions sur l'actualité, beaucoup de questions ces derniers jours sur cette vague sans précédent de migrants qui déferle sur les côtes européennes. Selon les derniers chiffres de l'agence européenne Frontex, le nombre d'étrangers arrivés aux frontières extérieures de l'Union a atteint ce mois de juillet les 107 500. C'est trois fois plus qu'au mois de juillet de l'an dernier. Nous allons donc consacrer la première partie de notre émission à ce thème et répondre à vos nombreuses questions. Et pour cela, nous sommes d'abord en ligne avec François Gémen, chercheur en sciences politiques à Sciences Po Paris et à l'Université de Liège en Belgique. Bonjour Monsieur Gémen.
Bonjour.
Vous allez pouvoir répondre aux questions de plusieurs de nos auditeurs et notamment de Pierre-Étienne qui nous appelle de Soubré en Côte d'Ivoire. Bonjour Pierre-Étienne.
Oui, bonjour Marie, bonjour à tous.
On écoute votre question Pierre-Étienne.
Ok, alors Marie, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous assistons à la plus grande vague de flux migratoires en Europe. Alors, ma première question est de savoir, est-ce que vous pouvez m'expliquer, Marie, ce qui est à la base de ce malheureux événement? Ça, c'est la première question. Mm-hmm. Et la deuxième question est de savoir, la politique commune mise en place par l'Union européenne pour freiner ce fléau.
Est-ce qu'il y a une politique commune européenne? Alors c'est François Gémen qui va vous répondre. Et déjà, François Gémen, cette expression, la plus grande vague d'immigration depuis la Seconde Guerre mondiale, on l'entend régulièrement. Est-ce qu'elle a du sens?
Elle a du sens dans certains cas. Je pense que ce qui est important de rappeler, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de personnes déplacées dans le monde que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, la multiplication des crises, que ce soit des crises politiques, des guerres ou des crises écologiques, fait que le nombre de personnes déplacées dans le monde n'a jamais été aussi important que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec plus de 60 millions de personnes déplacées aujourd'hui.
Du coup, vous répondez en partie à la question de Pierre-Étienne hein, sur les raisons de cette vague de migration?
Tout à fait. Alors, par contre, ce qu'il est important de rappeler, c'est que ce n'est pas sans précédent pour l'Union européenne. Mmh. L'Union européenne a déjà été confrontée à des vagues de demandes d'asile comparables, par exemple au début des années 90, au moment de la guerre dans les Balkans. Donc ce n'est pas du tout une situation nouvelle ou sans précédent pour l'Union européenne. Et l'Union européenne accueille une très faible proportion de ces personnes déplacées. Et comme je le disais, elles sont déplacées essentiellement à cause de la multiplication des crises dans le monde, que ce soit en Irak, en Afghanistan, plus récemment en Syrie, mais aussi en Érythrée, à cause de régimes oppressifs, et aussi de plus en plus à cause de crises écologiques et notamment de catastrophes naturelles qui déplacent chaque année à peu près 20 millions de personnes dans le monde. Le problème, c'est que l'Union européenne accueille trop peu de ces personnes déplacées, notamment faute d'une véritable politique commune en matière d'asile et d'immigration. C'est quelque chose qui n'existe pas, et donc il y a en réalité 28 politiques d'asile juxtaposées, et c'est ce qui explique aussi la crise du moment où l'Italie et la Grèce se sentent complètement débordées.
Alors justement, hier encore, Elisabeth Guigou, la présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale en France, réclamait une politique commune européenne. C'était chez nos confrères de France Inter. Qu'est-ce que ça changerait alors à l'accueil des migrants, cette politique commune?
Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est le pays européen qui est traversé en premier qui doit recevoir et traiter la demande d'asile. C'est-à-dire aujourd'hui, essentiellement, les pays de la rive nord de la Méditerranée, la Grèce, l'Italie. Les critères d'admission des réfugiés, les critères d'hébergement par exemple, ou aussi les critères sur lesquels on va fonder la décision de leur donner ou pas le statut de réfugié, sont très différents selon les 28 pays. Et donc, un demandeur d'asile aura plus ou moins de chances d'obtenir le statut de réfugié selon qu'il postule dans tel ou tel pays de l'Union européenne et sera hébergé dans des conditions très très différentes par exemple. Une politique d'asile européenne, ça voudrait dire, par exemple, harmoniser les critères entre les 28 pays, voire même, si on veut aller plus loin, avoir carrément une centralisation des demandes d'asile qui soit opérée directement par la Commission européenne et que les personnes soient ensuite libres de s'établir dans le pays européen de leur choix si elles ont reçu le statut de réfugié.
François Gémen, restez en ligne avec nous. On va accueillir maintenant Gaël qui nous appelle de Libreville au Gabon. Bonjour Gaël.
Bonjour Marie, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Soyez le bienvenu, on écoute vos questions donc sur cette vague de migration.
L'Union européenne va débloquer 2,4 milliards d'euros pour aider les pays qui font face à cette immigration. Je voudrais savoir quels sont les pays qui sont concernés par ce plan d'aide de l'Union européenne et sur quels critères va se faire la répartition de cette aide entre ces différents pays de l'Union européenne.
Alors on se tourne maintenant vers François Gémen, notre chercheur. Donc quels sont les pays concernés par cette aide, 2,4 milliards d'euros, Gaël l'a dit. Quel est le but de cette enveloppe, du déblocage de cette enveloppe?
Alors clairement, cette enveloppe est destinée avant tout à la Grèce, qui aujourd'hui reçoit un peu plus de la moitié des demandes d'asile dans l'Union européenne. Et donc la Grèce, qui est déjà un pays en difficulté financièrement et économiquement, ne peut évidemment pas assumer toute seule cette charge. Et donc cette rallonge budgétaire a pour objectif essentiellement de calmer la Grèce, de la même manière qu'on avait voté des rallonges budgétaires il y a quelques mois pour l'Italie également. Simplement parce que, comme je le disais, les pays, le règlement de Dublin prévoit que la demande d'asile doit être introduite dans le premier pays européen traversé, c'est-à-dire souvent les pays de la rive nord de la Méditerranée, la Grèce, l'Italie en premier lieu, mais qui ne sont pas toujours les pays dans lesquels les demandeurs d'asile souhaitent s'installer, mais qui pourtant doivent traiter la demande d'asile. Et donc je dirais que ces rallonges budgétaires, ces enveloppes en réalité, cherchent surtout à masquer l'absence d'une véritable politique commune européenne en matière d'asile. Malheureusement, je crains que la Commission ne puisse pas s'en tirer simplement en distribuant des enveloppes pour camoufler une absence de projet politique.
Là, finalement, on traite un peu l'urgence, hein, comme vous disiez, de cette arrivée massive dans des pays voilà, qui n'ont pas forcément les moyens de traiter cette demande, ce besoin humanitaire.
Tout à fait, c'est exactement ça. On cherche à calmer la Grèce et l'Italie.
Alors, vous évoquiez la Grèce et on a justement Daniel Valo en studio avec nous. Bonjour Daniel.
Bonjour, bonjour.
Vous revenez de Kos où vous avez réalisé une série de reportages pour RFI. Alors, c'est vrai que cette petite île de 33 000 habitants est apparue d'un coup dans l'actualité. Et justement, on a un auditeur qui a des questions à nous poser. Je vais le retrouver. Voilà, c'est Sony qui nous appelle de Mouenéditou au Kasaï Oriental en RDC. Bonjour Sony.
Bonjour Marie, bonjour les filles.
On écoute vos questions, Sony.
Bon, l'immigration se poursuit sur les îles en force de la Turquie. Il s'est de souligner que la situation devient préoccupante sérieuse de Kos. Alors je voudrais savoir, Marie, qu'est-ce qui explique une telle vague de migrants entre la Turquie et la Grèce? Dans quelles conditions vivent-ils et comment sont-ils pris en charge? Et enfin, Marie, quelle est la réaction des autorités grecques par rapport à cette migration et peuvent-elles gérer cette situation?
Merci Sony, la ligne n'est pas très bonne avec la RDC. Alors je résume, vous avez envie de savoir pourquoi une telle vague de migration entre la Turquie et l'île de Kos en Grèce, les conditions de vie de ces migrants et comment les autorités grecques gèrent la situation. C'est donc Daniel Valo qui va vous répondre. D'abord Daniel, sur cet afflux massif de migrants venus de la côte turque, c'est vrai que cette île, on n'en parlait pas encore il y a quelques jours, quelques semaines.
Oui, cela dit, ça fait un moment que cette route existe. Simplement, elle n'est pas tellement apparue sur le plan médiatique, mais ça c'est pour d'autres raisons. Cette route existe depuis un moment. Ce qui se passe, c'est que d'autres routes ont fermé. La route terrestre entre la Turquie et l'Europe, le passage des bateaux vers l'Italie, les fameux cargos fantômes, cargos poubelles. La Turquie a mis un terme à ces passages-là. Donc maintenant, en fait, cette route maritime entre la Turquie et les îles du Dodécanèse devient l'une des dernières possibles. C'est pour ça qu'elle est très empruntée. Elle est relativement facile, relativement parce que ça reste dangereux, mais la traversée en mer est assez courte entre la côte turque et Kos, mais il y a aussi l'île de Lesbos plus au nord.
On peut avoir une idée justement de ce temps, combien de temps il faut pour aller jusqu'à Kos depuis la...
Alors entre la côte turque et Kos, si on prend un ferry normal, ça peut être 20 minutes, donc c'est très près, c'est quelques kilomètres. Avec les embarcations qu'utilisent les migrants, ça prend quelques heures.
Oui.
Voilà.
Et alors, vous avez pu rencontrer des candidats au départ. Comment vivent-ils alors sur cette île qui n'était finalement pas prête à accueillir autant de monde d'un coup?
Alors, en fait, il y a pas mal de migrants qui ont théoriquement les moyens d'aller à l'hôtel, qui ont de l'argent. C'est beaucoup de réfugiés syriens qui utilisent toutes leurs économies pour financer ce voyage. Donc, ils dépensent beaucoup d'argent pour les passeurs. Évidemment, c'est ce qui coûte le plus cher. Mais il y en a quand même beaucoup qui ont quand même les moyens de d'aller à l'hôtel, de même de manger au restaurant. Simplement, les hôtels sont complètement saturés. Il y a aussi des hôtels qui refusent les migrants. Donc même ceux qui ont de l'argent sont obligés de dormir dehors. Ouais. Et puis évidemment, il y en a aussi beaucoup parmi ces migrants qui n'ont pas du tout d'argent, ou alors le peu d'argent qu'ils ont, eh bien ils le donnent aux passeurs et eux sont obligés de dormir dans la rue. Alors comme il n'y a aucune structure d'accueil sur l'île de Kos, voilà, ils dorment pour les plus chanceux, sous des tentes. Et puis il y en a beaucoup qui dorment dehors, voilà, dans les jardins publics, sur les plages. Donc des conditions vraiment désastreuses sur le plan humanitaire. Ils ont pas de quoi, ils peuvent pas aller aux toilettes, ils ont pas d'électricité, pas d'eau, évidemment, pour se laver, problème de pour se nourrir, pour boire de l'eau, etc.
Vous avez beaucoup entendu parler de situations de tension. Elles sont dues aussi justement à ces conditions de vie.
Oui, alors la tension, c'est surtout par rapport à l'enregistrement, parce que quand les migrants arrivent sur l'île de Kos, ils doivent s'enregistrer auprès des autorités, et il y a un phénomène d'engorgement, puisqu'il n'y a pas assez de fonctionnaires, il n'y a pas assez de policiers pour faire cet enregistrement, et donc il y a des heures et des heures d'attente, en fait des jours d'attente même. Il y a des migrants qui sont là depuis 10 jours, qui n'ont pas pu se faire enregistrer, et donc qui attendent tous les jours devant le commissariat ou près de ce stade où à un moment donné l'enregistrement était organisé. Ça suscite des tensions avec les policiers qui doivent maintenir l'ordre, et puis même entre les migrants, il y a des tensions entre différents groupes de migrants pour accéder à cet enregistrement et à ce laissez-passer qui va leur permettre de continuer leur route.
Ça répond en partie à la dernière question de Sony, notre auditeur de Mouniditou, qui s'interrogeait sur la réaction et les mesures prises par les autorités grecques pour gérer cette situation.
Oui, alors en fait, il y a plusieurs choses à voir. C'est que il y a eu une réaction du maire de la ville de Kos, donc des autorités locales, qui a été de dire on veut pas faire de structure d'accueil sur Kos parce que ça va faire un appel d'air, ça va attirer les migrants. Cette décision, elle a eu des conséquences très importantes parce que de ce fait-là, les migrants ont été obligés de se débrouiller eux-mêmes et en fait, ils ont continué à venir sur l'île, et donc on a eu des milliers de migrants dans les rues sans possibilité d'être accueillis quelque part. Il faut savoir que dans les autres îles grecques, par exemple l'île de Lesbos, il y a un centre d'accueil qui a dans lequel les conditions de vie sont pas forcément très bonnes non plus, mais au moins ça permet de gérer mieux l'arrivée des migrants. À Kos, situation particulière en raison de cette volonté des autorités locales de ne pas accueillir les migrants, voilà, ce qui a entraîné des conséquences humanitaires assez désastreuses, effectivement.
Merci beaucoup Daniel Valo de nous avoir rejoint en studio pour répondre à Sony, notre auditeur de RDC. On va accueillir maintenant Alassane qui nous appelle de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Bonjour Alassane.
Bonjour Marie et bonjour à tous les techniciens qui font un travail formidable dans l'ombre.
Ah, c'est gentil de passer ce message. Alassane, on écoute vos questions.
Alors, enfin, j'ai deux questions. Ma première question, c'est de savoir quel est le chiffre réel des rapatriements des migrants qui ne satisfont pas aux conditions pour être réfugiés et dans quelles conditions ils sont rapatriés.
Alors c'est François Gémen qui est toujours en ligne avec nous, chercheur en sciences politiques à Sciences Po Paris et à l'Université de Liège, qui va vous répondre. François Gémen, alors est-ce qu'on a une idée du nombre de migrants rapatriés?
Bien sûr. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un demandeur d'asile, quand une demande d'asile n'aboutit pas, donc quand le demandeur d'asile ne reçoit pas le statut de réfugié, quand on ne lui donne pas cette protection, eh bien, il est censé rentrer dans son pays. Alors, une grande partie rentre chez eux volontairement et reçoivent une petite somme d'argent pour les aider à financer le voyage du retour. D'autres, par contre, ne sont pas d'accord de rentrer, et dans ce cas-là, ils sont rapatriés de force. Mm-hmm. C'est la raison pour laquelle, si vous prenez un avion d'Air France vers l'Afrique au départ de Paris, vous aurez parfois à l'arrière de l'avion une personne menottée et encadrée par des policiers qui est rapatriée de force dans son pays d'origine.
Est-ce que vous avez quelques chiffres?
En France, le taux de rapatriement annuel est d'environ 35 000. Ça coûte énormément d'argent. Il faut savoir qu'une personne rapatriée de force, ça coûte à peu près 20 000 euros à la collectivité. Donc c'est une somme d'argent considérable. Alors, il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas être déportés simplement parce que les règlements internationaux, le droit international prévoit qu'on ne peut pas rapatrier une personne vers un pays qui n'est pas considéré comme sûr. Donc on ne peut pas renvoyer quelqu'un dans un pays en guerre, par exemple. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'étrangers qui se trouvent en situation irrégulière simplement parce qu'ils proviennent d'un pays qui n'est pas considéré comme sûr et qui sont entre deux eaux, qui n'ont pas obtenu l'asile en France, mais ne peuvent pas non plus être rapatriés dans leur pays. Et donc parfois, on va carrément les rapatrier dans un autre pays que leur pays d'origine si ce pays est considéré comme davantage sûr.
Merci beaucoup François Gémen d'avoir été en ligne avec nous pour répondre à nos auditeurs. On va accueillir maintenant un dernier auditeur sur ces questions de migration. C'est Lévis qui nous appelle de Sakété près de Port-Novo au Bénin. Bonjour Lévis.
Bonjour Marie.
On va parler des passeurs avec vous Lévis. Quelles sont vos questions?
Oui, plus de 900 passeurs ont été de migrants ont été arrêtés par les autorités italiennes depuis.
Lévis, la liaison est mauvaise avec Sakété près de Porto Novo.
Allô Marie, vous me recevez?
Oui, on vous écoute. Quelles sont vos questions, Lévis? On a entendu hein, plus de 900 passeurs arrêtés depuis janvier 2014 en Italie.
Qui sont ces passeurs? Comment s'organisent-ils? Comment ont-ils été arrêtés?
Oui. Lévis, c'est Anne Lenir, notre correspondante à Rome, qui va vous répondre hein, sur les passeurs, leur organisation, le nombre d'arrestations. Bonjour Anne.
Bonjour et bonjour à tous nos auditeurs et bien entendu à Lévis.
Que sait-on alors Anne sur ces passeurs et leur organisation?
Alors ce que l'on connaît pour ceux qui ont été arrêtés, c'est avant tout leur nationalité. Les plus nombreux sont par ordre égyptiens, tunisiens et sénégalais, des Algériens, des Érythréens, des Libyens, des Nigérians, des Marocains et des Syriens ont aussi été arrêtés. Alors ils sont âgés en moyenne de 18 à 35 ans. La majorité d'entre eux sont ce que l'on appelle des petites mains, c'est-à-dire qu'ils sont recrutés par des organisateurs de trafic d'êtres humains comme timoniers des bateaux utilisés pour la traversée de la Méditerranée et pour faire régner l'ordre de manière toujours très violente à bord des embarcations. Ils peuvent être 3, 4, 6 ou 9 à bord selon le nombre de migrants transportés et la dimension du bateau. Alors concernant les organisations criminelles, nous avons peu d'informations car les passeurs ne collaborent pas avec la police. À ce jour, aucun cerveau n'a été arrêté. Mais en tête de liste des chefs de réseau recherchés au niveau international, eh bien on trouve un Éthiopien âgé d'une quarantaine d'années. Il est soupçonné d'avoir accumulé plus de 60 millions d'euros en affrétant des bateaux, dont celui dans lequel 366 migrants sont morts le 3 octobre 2013 au large de l'île de Lampedusa. Il serait en Libye, mais l'Italie n'a actuellement aucune possibilité de coopération policière et judiciaire avec la Libye, qui est son ancienne colonie.
Et alors Lévis, Anne s'interrogeait sur la manière dont les passeurs étaient arrêtés et ce qu'ils risquaient.
Alors, les passeurs sont arrêtés grâce aux témoignages de migrants qui, à peine débarqués, indiquent à la police leur présence quand ces derniers n'ont pas déjà pris la poudre d'escampette. L'exemple le plus récent remonte au 17 août. Sur indication de certains migrants, 8 passeurs, âgés de 17 à 30 ans, 3 Marocains, 4 Libyens et 1 Syrien, ont été arrêtés en Sicile. Ils composaient l'équipage du bateau de pêche dans lequel les équipes de sauvetage ont trouvé le 15 août les corps de 49 personnes mortes par asphyxie dans la cale du bateau. Donc, après avoir été interpellés, les présumés passeurs sont interrogés par les enquêteurs, identifiés et, en principe, incarcérés. Ils peuvent être accusés de trafic d'êtres humains et d'homicide involontaire ou volontaire si certains des migrants qu'ils transportaient sont morts. Alors, les peines qu'encourent les passeurs vont, en général, de 5 à 10 ans de réclusion assorties de lourdes amendes. Bon, ils les payent très rarement. Dans les cas les plus graves, ils peuvent être condamné à la prison à vie. Cependant, il faut préciser que 10% seulement des passeurs arrêtés en Italie purgent leur peine.
Merci Anne Lenir, je suis obligée de vous couper, c'est la fin de cette première partie d'Appel sur l'actualité. On se retrouve dans 10 minutes pour le débat pour la seconde partie d'Appel sur l'actualité.